L'Occident, c'est cette civilisation qui a survécu à toutes les prophéties sur son effondrement par un singulier stratagème. Comme la bourgeoisie a dû se nier, en tant que classe, pour permettre l'embourgeoisement de la société elle-même, de l'ouvrier au baron. Comme le capital a dû se sacrifier en tant que rapport salarial pour s'imposer comme rapport social, devenant ainsi capital culturel et capital santé autant que capital financier. Comme le christianisme a dû se sacrifier en tant que religion pour se survivre comme structure affective, comme injonction diffuse à l'humilité, à la compassion et à l'impuissance. L'Occident s'est sacrifié en tant que civilisation particulière pour s'imposer comme culture universelle. L'opération se résume ainsi. Une entité à l'agonie se sacrifie comme contenu pour se survivre en tant que forme. L'individu en miettes se sauve en tant que forme grâce aux technologies spirituelles du coaching. Le patriarcat, en chargeant les femmes de tous les pénibles attributs du mal, volonté, contrôle de soi, insensibilité. La société désintégrée en propageant une épidémie de sociabilité et de divertissement. Ce sont ainsi toutes les grandes fictions périmées de l'Occident qui se maintiennent par des artifices qui les démentent point par point. Il n'y a pas de choc des civilisations. Ce qu'il y a, c'est une civilisation en état de mort clinique, sur laquelle on déploie tout un appareillage de survie artificielle et qui répand dans l'atmosphère planétaire une pestilence caractéristique. À ce point, il n'y a pas une seule de ces valeurs à quoi elle arrive encore à croire en quelque façon, et toute affirmation lui fait l'effet d'un acte d'impudence, d'une provocation qu'il convient de dépecer, de déconstruire et de ramener à l'état de doute. L'impérialisme occidental, aujourd'hui, c'est celui du relativisme, du « c'est ton point de vue ». C'est le petit regard en coin ou la protestation blessée contre tout ce qui est assez bête, assez primitif ou assez suffisant pour croire encore à quelque chose, pour affirmer quoi que ce soit. C'est ce dogmatisme du questionnement qui cligne d'un œil complice dans toute l'intelligentsia universitaire et littéraire. Aucune critique n'est trop radicale parmi les intelligences postmodernistes, tant qu'elle enveloppe un néant de certitude. Le scandale, il y a un siècle, résidait dans toute négation un peu tapageuse. Elle réside aujourd'hui dans toute affirmation qui ne tremble pas. Aucun ordre social ne peut durablement se fonder sur le principe que rien n'est vrai. Aussi, il faut le faire tenir. L'application de toute chose, de nos jours, du concept de sécurité, exprime ce projet d'intégrer aux êtres mêmes, aux conduites et aux lieux, l'ordre idéal à quoi ils ne sont plus prêts à se soumettre. Rien n'est vrai, ne dit rien du monde, mais tout du concept occidental de vérité. La vérité, ici, n'est pas conçue comme un attribut des êtres ou des choses, mais de leur représentation. Est tenue pour vraie une représentation conforme à l'expérience. La science est en dernier ressort cet empire de l'universelle vérification. Or, toutes les conduites humaines, des plus ordinaires aux plus savantes, repose sur un socle d'évidence inégalement formulé. Toutes les pratiques partent d'un point où choses et représentations sont indistinctement liées. Il entre dans toute vie une dose de vérité qu'ignore le concept occidental. On peut bien parler ici de vrais gens, c'est invariablement pour se moquer de ces pauvres d'esprit. De là que les Occidentaux sont universellement tenus par ceux qu'ils ont colonisés pour des menteurs et des hypocrites. De là qu'on leur envie ce qu'ils ont, leur avance technologique, jamais ce qu'ils sont, que l'on méprise à juste titre. On ne pourrait enseigner Sade, Nietzsche et Artaud dans les lycées si l'on avait disqualifié par avance cette notion-là de vérité. Contenir sans fin toutes les affirmations, désactiver pas à pas toutes les certitudes qui viennent fatalement à se faire jour, tel est le long travail de l'intelligence occidentale. La police et la philosophie en sont deux moyens convergents, quoique formellement distinct. Bien entendu, l'impérialisme du relatif trouve dans n'importe quel dogmatisme vide, dans n'importe quel marxisme-léninisme, n'importe quel salafisme, dans n'importe quel néo-nazisme, un adversaire à sa mesure. Quelqu'un qui, comme les Occidentaux, confond affirmation et provocation. À ce stade, une contestation strictement sociale, qui refuse de voir que ce qui nous fait face n'est pas la crise d'une société, mais l'extinction d'une civilisation, se rend par là complice de sa perpétuation. C'est même une stratégie courante désormais que de critiquer cette société dans le vain espoir de sauver cette civilisation. Voilà, nous avons un cadavre sur le dos, mais on ne s'en débarrasse pas comme ça. Il n'y a rien à attendre de la fin de la civilisation, de sa mort clinique. Telle qu'elle, elle ne peut intéresser que les historiens. C'est un fait. Il faut en faire une décision. Les faits sont escamotables. La décision est politique. Décider la mort de la civilisation, prendre en main comment cela arrive, seule la décision nous délestera du cadavre. Deux siècles de capitalisme et de nihilisme marchand ont abouti au plus extrême des étrangetés à soi, aux autres, au monde. L'individu, cette fiction, se décomposait à la même vitesse qu'il devenait réel. Enfants de la métropole, nous faisons ce pari, que c'est à partir du plus profond dépouillement de l'existence que se déploie la possibilité toujours tue, toujours conjurée, du communisme. En définitive, c'est avec toute une anthropologie que nous sommes en guerre, avec l'idée même de l'homme. Le communisme, donc, comme présupposé et comme expérimentation, partage d'une sensibilité et élaboration du partage, évidence du commun et construction d'une force. Le communisme comme matrice d'un assaut minutieux, audacieux, contre la domination, comme appel et comme nom, de tous les mondes résistant à la pacification impériale, de toutes les solidarités irréductibles au règne de la marchandise, de toutes les amitiés assumant les nécessités de la guerre. Communisme. Nous savons que c'est un terme dont il faut user avec précaution, non pour la raison que, dans le grand défilé des mots, il ne serait plus à la mode, mais parce que nos pires ennemis l'ont usé et qu'il continue. Nous insistons. Certains mots sont comme des champs de bataille, dont le sens est une victoire, révolutionnaire ou réactionnaire, nécessairement arrachée de haute lutte. Déserter la politique classique signifie assumer la guerre, qui se situe aussi sur le terrain du langage, ou plutôt sur la manière dont se lient les mots, les gestes et la vie indissociablement. Si l'on a mis tant d'efforts à emprisonner pour terrorisme quelques jeunes paysans communistes qui auraient participé à la rédaction de l'insurrection qui vient, ce n'est pas pour un délit d'opinion, mais bien parce qu'ils pourraient incarner une manière de tenir dans la même existence des actes et de la pensée, ce qui n'est généralement pas pardonné. Ce dont on accuse ces gens, ce n'est ni d'avoir écrit quelque chose, ni même de s'être attaqué matériellement au sacro-saint flux qui irrigue la métropole. C'est qu'ils s'en soient possiblement pris à ce flux, avec l'épaisseur d'une pensée et d'une position politique. Qu'un acte ici ait pu faire sens selon une autre consistance du monde que celle désertique de l'Empire. L'antiterrorisme a prétendu attaquer le devenir possible d'une association de malfaiteurs. Mais ce qui est attaqué en réalité, c'est le devenir de la situation. La possibilité que derrière chaque épicier se cachent quelques mauvaises intentions, et derrière chaque pensée, les actes qu'elle appelle. La possibilité que se propage une idée du politique, anonyme mais rejoignable, disséminée et incontrôlable, qui ne puisse être rangée dans le cagibi de la liberté d'expression. Il ne fait plus guère de doute que c'est la jeunesse, la première qui s'en prendra sauvagement au pouvoir. Les dernières années, des émeutes du printemps 2001 en Algérie à celles de l'hiver 2008 en Grèce, ne sont qu'une succession d'avertissements à ce propos. Ceux qui, il y a 30 ou 40 ans, se révoltèrent contre la morale de leurs parents, ne manqueront pas de réduire cela à un nouveau conflit de génération, si ce n'est à un effet prévisible de l'adolescence. Le seul avenir d'une génération, c'est d'être la précédente, sur un chemin qui, invariablement, mène au cimetière. je viens de vous lire deux extraits d'un livre qui s'appelle L'insurrection qui vient, écrit par le Comité Invisible. Cet essai politique a été dans sa grande partie écrit en 2007, puis en 2009, une autre partie intitulée Mise au point a été ajoutée. Et donc là, le dernier texte, justement, le dernier extrait provenait de cette mise au point, et le premier du livre principal, si on veut. Quand j'ai commencé à réfléchir un peu à ce texte et ce dont j'avais envie de parler ou d'ouvrir un peu comme peut-être comme fiction un peu, j'ai commencé par chercher la généalogie, enfin quel type de généalogie, à quel type de généalogie appartenait ce texte. Et loin de moi l'envie de vous faire une histoire, enfin une, pardon, pas une histoire, de relater tous les faits concrets de toute cette affaire, mais plutôt juste de prendre certains morceaux que j'ai trouvés de ci et de là et de voir comment ils peuvent s'agencer ensemble. Donc l'affaire principale qui a découlé enfin qui est en lien avec ce livre, c'est l'affaire de Tarnac, qui est une affaire en fait qui a eu lieu en 2008, donc après la publication du livre. De sabotage de lignes de train en France. Cette affaire était. Les membres ont été accusés d'entreprises terroristes, ce qui se dit la dernière partie enfin, dans la mise au point, justement, d'une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Donc, on accusait vraiment ces gens d'une conspiration avant tout, puisqu'en fait, sur ces lignes de TGV, une pièce a été trouvée qui justement permettait le sabotage. Mais en fait, cette pièce, ils ne savent pas vraiment si elle leur appartient ou si elle-même n'est pas. Elle n'a jamais été, en tout cas, considérée comme preuve à l'égard des accusés. Cette pièce, c'est assez marrant, c'est en fait, c'est pas n'importe quoi. Donc les lignes de CFF ont été déviées. Pas dévié en fait, vraiment saboté, donc arrêté. Les trains n'ont plus pu circuler parce qu'une pièce de fer à béton a été posée sur les caténaires. Et en fait, donc les caténaires, si j'ai bien compris, c'est les lignes à haute tension, enfin, moi j'appelle ça comme ça, mais qui se trouvent en haut enfin, du train. Et en fait, en posant ce fer à béton, donc cette tige en métal, d'une certaine manière, ça empêchait le train de continuer de circuler. En fait, ça faisait. Non, pas déraillé, donc il n'y avait pas de risque de mort ou de quoi que ce soit, ça créait un dysfonctionnement et ça empêchait d'avancer. En fait, je vous parle de ça parce que ce qui était assez drôle, justement, en commençant à chercher. Enfin, c'est pas vraiment drôle, mais en commençant à chercher des choses sur cette affaire du Tarnac, on tombe assez vite sur des discussions autour de cette pièce. Elle levait vraiment pas mal de débats. Évidemment, quand on a une pièce qui pourrait être une pièce à conviction, on veut vraiment savoir si oui ou non elle est fiable. Et surtout sur des blogs ou des choses comme ça, on trouve plutôt une espèce de discussion comme quoi cette pièce serait vraiment une conspiration des services secrets qui voulait surtout en fait inculper des personnalités un peu trop virulentes comme celles qui ont été accusées dans l'affaire Tarnac. Et du coup, ils auraient construit cette pièce. Donc, je vous mettrai après le lien de ces forums en fait où on parle vraiment de manière très très technique de comment cette pièce a pu être élaborée et vu son niveau d'élaboration, si oui ou non elle appartient à cette affaire et enfin elle a été plutôt faite par les accusés. Donc les accusés, j'ai pas vraiment dit, mais c'est vrai que les figures médiatiques de cette affaire sont Julien Coupa, son ami Hildun Lévy et Gabriel Alaise. Donc c'est un peu les trois figures comme ça médiatiques de cette affaire. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont été aussi évidemment accusées et qui ont participé à tous ces multiples jugements. Donc voilà, donc cette pièce d'ailleurs enfin, qui est assez belle. Je vous mettrai le lien enfin, un peu en fait tous les articles qui ont servi un peu à construire cette petite fiction que je suis en train de vous raconter, je vous les mettrai sur l'événement Facebook ou sur la page de Unperfect Radio. Donc en fait, cette affaire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle vient vraiment en France ébranler ce mot terrorisme. C'est un peu ça qui va se passer. Donc les trois personnages, donc Julien Coupa, Ilune Lévy et Gabriel Alès, vont vraiment servir un peu d'exemple, de dissuasion à commettre justement ces entreprises terroristes, à penser, à faire des actes. Et le service de renseignement intérieur, en fait, qui s'appelle la DCRI, donc Direction Centrale du Renseignement Intérieur, est une toute nouvelle fraction à cette époque de surveillance française. Alors évidemment qu'ils ont tout intérêt à faire leurs preuves et à montrer l'exemple en inculpant des personnes sous l'étendard terrorisme. Donc si première question que je me suis posée, c'est vrai que la définition en tout cas de terrorisme semble être que ça serait l'action de troubler l'ordre public par l'intimidation, oui, et la terreur. Et en fait, il semblerait qu'à ce moment-là, aussi au vu des témoignages des accusés, c'est plutôt la DCRI qui commette un acte terroriste, puisqu'ils sont vraiment dans cette démarche-là, où ils tentent coûte que coûte de terroriser les membres en leur faisant avouer des choses qu'eux disent ne pas avoir commis. Et à ce moment-là, sort justement une des preuves retenues contre Julien Coupa. C'est l'insurrection qui vient, donc ce livre dont je vous ai lu les extraits, qui est quand même signé par le comité invisible, mais il s'enchaîne une espèce de grosse discussion, que c'est évident que c'est Julien Coupa qui a écrit ça, alors qu'il ne l'a pas signé. Alors c'est assez drôle de voir que l'anonymat peut avoir une telle présence, hein, tout d'un coup, tout le monde s'accorde à dire que c'est lui. Et avec des autres personnes, mais on s'en fiche un peu qui, ça va surtout être lui. Il y a quand même l'éditeur de La Fabrique qui est aussi mis dans le coup, mais finalement, c'est plutôt Julien Coupa qui va être retenu. Et en fait, l'ouvrage est accusé d'encouragement au sabotage. Ça, c'est pas mal aussi. L'encouragement au sabotage et aux nouvelles organisations. Bon, déjà, ce terme de nouvelle organisation, c'est assez délicat parce que quand même, dans une bonne partie du livre, le comité invisible s'attelle à proposer de stopper justement les organisations, alors de se réunir, mais pas sous ce genre de forme. Donc on vulgarise un propos, et là encore, les mots viennent nous dire à quel point c'est important, on ne peut pas faire avancer quelque chose en continuant de dire n'importe quoi. Donc le comité invisible, il prône une envie de se lier les uns les autres, mais pas de s'organiser au sens justement que l'entend des fractions de surveillance française ou les gouvernements. Donc de toute manière, leur accusation, enfin ça échappe un peu à ça. Donc oui, qu'est-ce que cette affaire un peu nous propose? Moi je me demandais, la DCRI qui n'arrête pas de vouloir absolument faire passer ces personnes au jugement. Et donc, il va s'en suivre pendant des années, des accusations sans fin. Et ce qui me semble un peu désœuvrant, enfin, pas désœuvrant, mais plutôt déstabilisant, je dirais, après la lecture de tous ces nombreux articles sur cette affaire, c'est la sensation qu'en fait, l'affaire manque de mots, en fait. Ça fonctionne pas. On tourne autour de ce mot terrorisme, mais en fait, c'est pas de ça qu'on aimerait parler. C'est d'autres choses. Et comme si ça nous révélait qu'il fallait peut-être créer un mot pour pouvoir parler de cette affaire. Donc, on s'attend à dire que ce n'est pas terroriste. Par contre, donc c'est la DCRI qui semblerait semer la terreur, mais ils ne veulent pas s'en rendre compte. Donc, mais l'avantage, entre guillemets, et là je mets vraiment des guillemets, c'est qu'ils ont la décence de considérer ce qui se passe. C'est-à-dire, oui, il s'est passé quelque chose, ça n'a pas l'impact suffisant pour être une entreprise terroriste, mais il s'est passé quelque chose et apparemment ça tourne autour d'un livre. Donc la DCRI va prendre, enfin c'est pas vraiment eux, je vulgarise un peu, mais voilà, vont prendre d'assaut ce livre comme preuve et le brandir comme ça. Et Et en fait, ça va être un peu refuté par les avocats en disant, mais qu'est-ce que c'est ça, un livre? Un livre, ça peut pas faire office de preuve. Bon. Moi, je trouve que c'est normal d'être effrayé par un livre en même temps. Ça peut être assez élevé. Les livres peuvent nous faire commettre des actes, je veux dire. Et je me suis demandé, en fait, enfin, je trouvais ça intéressant de voir que cette pièce, tout d'un coup, pouvait être élevée à un niveau assez important de l'affaire. Et je me suis demandé si vraiment ce livre avait été pris en considération et retenu comme preuve, qui est-ce qu'on condamnerait? Est-ce qu'on condamnerait le lecteur ou l'auteur, finalement? Parce que un livre qui n'est pas lu, il n'a pas vraiment d'impact. Et un livre pas écrit, il n'existe pas. Donc, je sais pas, je me disais qu'on était peut-être face à un mouvement, quelque part, là, qui nuit aux deux. Et pourrait nous encourager, donc aux deux, donc au lecteur et à l'auteur, et pourrait nous encourager vers une voie d'action et de prise de parole. Si en l'occurrence la proposition donc de la DCRI était de prendre comme preuve ce livre, et que l'avocat général a un peu refuté ça, elle semblait dire que comme si elle voulait pas y croire, en fait. C'est un peu ce que j'ai un peu relevé comme ça dans les articles, c'est que l'avocat général ne voulait absolument pas croire qu'un livre pouvait être considéré comme une preuve. Donc les mots seraient aussi donc considérés comme des preuves, et les membres, en fait, bien qu'ils ne soient pas accusés de terrorisme, parce que l'action est trop faible, mais ils ne peuvent pas être accusé d'une simple expression de la simple expression d'une conviction. Donc c'est à ça que le livre, enfin, si le livre avait été retenu, ça serait ça. Donc ce serait juste que ce qu'ils ont fait est l'expression d'une conviction. Et donc là, tout d'un coup, ça serait une adhésion proclamée comme ça à une littérature révolutionnaire. Et l'avocat dit que c'est trop peu pour être cru. Une conviction, elle peut pas juste être la cause de tel acte. Personne ne se mobilise pour si peu. Donc, bon, moi j'en viens toujours à qu'est-ce que ces accusés ont fait. Ils sont accusés d'avoir mis à jour des mots qui peut-être en fait faisaient suffisamment sens pour agir. C'est un peu ce qui est proposé d'ailleurs à la fin de l'extrait que je vous ai lu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, avec cette affaire, tout d'un coup, on remarque que l'appareillage judiciaire, lui, il a pas de mots, il a rien pour qualifier cela. On n'a jamais inculpé quelqu'un pour ça. Enfin, il n'y a pas de baromètre comme ça. Et je me dis, en effet, enfin, si ça avait été si simple, les 8 années de délibération, enfin, voilà, c'est vraiment une affaire qui a duré 8 ans quand même, hein, donc c'est assez long. Et c'est peut-être pas assez pour trouver un mot, justement. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé. Et par contre, je me suis posé la question si justement, en tant que lecteur, on pouvait nous-mêmes être les ouvriers de cette entreprise de terroriste, en fait. Par rapport à ces mots, enfin à ce mot terrorisme, il y a dans les différentes lectures que j'ai faites, il y a une universitaire qui a écrit son doctorat sur le terrorisme et droit pénal, études critiques des incriminations terroristes, qui s'appelle Julie Alix. J'ai pas réussi à avoir accès à son doctorat en entier, enfin à sa thèse, ouais, à sa thèse en entier. Donc j'ai trouvé quelques petits extraits par-ci par-là. Puis je voulais juste vous lire 2-3 choses que j'ai trouvées. Elle dit que la définition pénale du mot terrorisme, enfin du terrorisme, est une véritable construction qui tente de concilier des intérêts multiples et non la simple transposition de données criminologiques. Fond et forme sont combinés pour que la qualification terroriste reste la plus large possible. Afin d'entrer en matière plutôt via le phénomène terroriste que via la spécificité du terrorisme. L'antiterrorisme, la lutte antiterrorisme, antiterroriste, est une politique. Et du coup, l'instrumentalisation du mot et de l'incrimination est faite à des fins politiques, qui dénote d'un besoin de répression pour pouvoir asseoir un gouvernement. Donc en droit français, il n'y a pas vraiment besoin de commettre une infraction pour appartenir au terrorisme. Comme je disais avant, il suffit juste de participer à un groupement ayant pour vocation de troubler l'ordre public pour être accusé de terreur, en fait, de semer la terreur et d'être terroriste. Enfin bon, voilà, c'est peut-être un peu brouillon, j'espère que vous avez compris quelque chose. Moi, j'avoue que c'est des lectures qui m'ont assez passionnée, et cette question du mot terrorisme dans le droit pénal, tout d'un coup, m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, j'ai pas. Peut-être que ça sera l'occasion pour un prochain épisode de discuter de ça, de voir peut-être de se rapprocher de la Suisse et de se demander comment on qualifie ce mot, enfin, qu'est-ce qu'il a comme impact. Et est-ce qu'on peut créer des systèmes viables en bouleversant, en fait, ces cloisons que le droit accole aux mots, justement. Donc, je tiens juste encore à dire que ce que je raconte là, c'est qu'un essai de fiction. Hein. Je me base sur des mots, des histoires, et je ne me demande pas vraiment si c'est vrai ou pas. Si j'essayais vraiment de chercher la vérité, je continuerais à faire une énième contribution à cette affaire du Tarnac, qui est vraiment très... très, très intéressante à part ça, mais je crois que d'autres l'ont fait bien mieux que moi jusqu'à maintenant. J'ai juste un peu essayé de chercher à poser un autre regard, un regard peut-être un peu déplacé. Déplacé, c'est un assez cool mot, parce que je trouve qu'il a un peu cette connotation de quelque chose qu'on est un peu mal à l'aise de voir, en fait. Et je crois que il n'y a pas vraiment de maladresse là-dedans, c'est surtout des essais. Puis il y a des essais qui réussissent, puis d'autres qui ratent. Puis on verra un peu tout ça. Du coup, je vous mettrai en lien un peu les différents sites que j'ai consultés. Et je voulais encore, parce que le but c'est quand même de lire pas seulement un texte et puis ma petite brèche que j'ai ouverte avec mes histoires, mais peut-être de rebondir sur un autre texte. C'est un texte que j'ai découvert sur un site que je vous encourage vraiment à consulter, qui est super, qui s'appelle Lundi Matin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une plateforme qui réunit énormément de textes sur l'actualité, écrits par des journalistes. Ça semble être plutôt un texte, un site. Enfin, tous les textes, pardon, sont en français. Donc, je pense que c'est des journalistes français, mais qui sont aussi en mission ailleurs et qui écrivent depuis là. Et c'est vrai que cette lecture, cette relecture pour moi de l'insurrection qui vient, elle m'a fait penser à ce qui se passe aussi au Mexique en ce moment et à comment des insurrections naissent et qu'est-ce qui se passe, comment on s'exprime aussi dans ces moments-là, un peu en temps et en heure. Et du coup, je voulais lire un article par rapport à ça. Sauf que, en fait, en lisant un peu tout ce qu'il y avait autour du Mexique sur ce site, j'ai trouvé un autre article qui date d'un peu avant les événements du début de l'année. C'est un article donc, qui date du 30 mai 2016 et que je trouve vraiment intéressant. J'espère que vous trouverez aussi. Je m'excuse par avance. Il y a beaucoup de noms de villes du Mexique et j'ai aucune idée de comment on les prononce. Alors, je vais tenter... je risque d'ébrécher un max de trucs. Donc du coup, je vous encourage vraiment peut-être à le relire si ça vous intéresse, parce que sûrement qu'il y a des choses qui ne vont pas être très claires. Donc l'article, il s'appelle « Je vous écris d'Oaxaca », cette ville au Mexique, et qui a été écrit par Georges Lapierre. Il y a 3 jours, 2 corps ont été découverts dans une camionnette abandonnée dans la banlieue de la ville à Xoxoctolan. Un corps était décapité et la tête mise en évidence sur le capot de la voiture. Les gens ont reconnu un commerçant du quartier. Hier, une amie originaire de l'Isthme et de Tehuantepec a reçu sur son téléphone portable un message invitant la population de l'Isthme, qui est donc celle de Juchitán, Tehuantepec, Matias Romero, Salina Cruz, Ixtepec, Jalapa, etc., à ne pas sortir à partir de 9h du soir. La chasse contre la vermine allait commencer. Ceci est un avertissement afin que vous évitiez de vous trouver dans la rue à partir de 9h du soir, car la chasse à la vermine a commencé, Nous venons nettoyer la saleté qui a taché et usé notre cartel de la pire façon. » Venait ensuite la liste des noms de tous ceux qui avaient trahi leur confiance. Ces deux événements récents, qui nourrissent l'actualité oaxaquienne, sont loin d'être exceptionnels dans le Mexique contemporain. Ils ont même acquis avec le temps une certaine banalité. Nous avions pu suivre depuis 3 ou 4 ans la lente mais implacable pénétration de l'État d'Oaxaca par des bandes organisées de type mafieux extorquant la population, réclamant un droit du piso ou impôt de protection aux commerçants. Les cartels de la drogue se faisaient de plus en plus présents. Des rumeurs couraient sur la présence des Zetas, organisation de tueurs issus de l'armée liée au trafic de la drogue. Il était de notoriété publique que l'isthme de Tehuantepec était jusqu'à présent contrôlé par le cartel du Golfe. Dans les bars de nuit du centre-ville d'Oaxaca, des personnages étranges avaient fait leur apparition. Je dis « étranges » dans la mesure où ils ne constituaient pas la clientèle habituelle de ces bars et étaient l'objet d'une attention toute particulière de la part des tenanciers. Déjà dans certaines colonias ou quartiers pauvres d'Oaxaca, les habitants ne sortaient plus de chez eux à partir d'une certaine heure du soir ou de la nuit. L'isthme traversé par la Bestia, train de marchandises allant de Pochtula, qui se trouve à la frontière avec le Guatemala à Veracruz, sur la côte du golfe du Mexique, emprunté par les immigrés venant de l'Amérique centrale, était devenu le territoire que des bandes criminelles se partageaient avec la complicité des forces de la police et de l'immigration, et la disparition d'un lot d'immigrés enlevés par des hommes armés faisait parfois le sujet d'un article dans certains journaux. Jusqu'alors, cette rumeur persistante, et qui grossissait peu à peu, restait encore confinée dans le domaine du racontard, du bruit qui court. Avec ces deux événements, la menace diffuse se cristallise soudain et prend du coup une autre dimension. Simple menace. Le lendemain, dimanche, 5 personnes ont été retrouvées assassinées à Huachitán. Donc 4 dans la seule 7e section. Le quartier des pêcheurs, mais aussi quartier Bravo de Huachitán. Ces assassinats eurent lieu malgré un déploiement impressionnant des forces de l'ordre pour l'opération Huachitán Seguro, Huachitán Ville Sûre. 300 policiers, de la police municipale à la police fédérale, auxquels ont été ajoutés des éléments de l'armée et de la marine. Il semblerait qu'à la loi des cartels, les politiques ne puissent répondre que par des slogans. C'est que pour eux, l'ennemi n'est pas tant constitué par l'ordre mafieux, auquel d'ailleurs ils appartiennent, mais bien plutôt par les peuples ou les gens qui cherchent à échapper à cet ordre mafieux. C'est ainsi que des habitants d'Alvaro Obregón, ex-agence municipale de Huachitán, qui passaient par la ville où se tenait un meeting des candidats au pouvoir, élection du 5 juin, ont essuyé le feu de la police municipale. Bilan, 6 blessés, dont 2 graves. Les forces de l'ordre ne se sont pas trompées d'ennemis. Les habitants d'Alvaro Obregón sont bien de véritables dissidents. Ils ont reconstruit leur autonomie politique en s'appuyant sur les institutions communautaires. L'Assemblée populaire et souveraine, les autorités constituant le conseil désigné par cette même assemblée, la police communautaire. En outre, ils défendent l'entrée de la barre Santa Teresa sur la lagune pour y interdire la construction d'éoliennes. Huachitán Seguro, pour qui ? Tenter d'analyser et de comprendre cette spirale de violence qui secoue le Mexique contemporain est un peu une gageure pour l'intelligence et surtout pour un esprit cartésien qui veut qu'une chose ne peut pas être à la fois elle-même et son contraire, comme déclarer la guerre aux cartels tout en s'alliant avec eux. Faire la guerre aux Caballeros Templarios en s'alliant aux cartels de Jalisco, Nueva Generación, par exemple. Être un général de l'armée se livrant à la chasse aux trafiquants de drogue tout en étant un général corrompu par ces mêmes trafiquants. Monter de toutes pièces le spectacle d'une autodéfense populaire en créant un groupe paramilitaire dirigé par les membres d'un cartel pour ensuite l'institutionnaliser comme force rurale placée sous le contrôle des militaires, etc. En outre, nous sommes plongés dans le monde du non-dit, du mensonge, de la confusion, de l'obscurité, de l'opaque. Les fameux, et même trop fameux, Zetas, que l'on dit déserteurs de l'armée et qui ont été formés pour une mission contre-insurrectionnelle, sont-ils vraiment déserteurs ? Ne sont-ils pas justement en train d'accomplir la tâche pour laquelle ils ont été formés ? Ne seraient-ils pas plutôt des paramilitaires dans le sens strict du mot ? Contribuant à faire de la société mexicaine une société paramilitarisée ? On dit qu'ils ont commencé à servir de tueurs au cartel du Golfe pour ensuite prendre leur indépendance et disputer les territoires ou plazas aux autres cartels déchaînant une violence sans nom. Qui sème le vent récolte la tempête. La tempête, ce maelstrom, ce déchaînement de violence avec ses morts innombrables, ses disparus, ses fosses clandestines, ne serait-elle pas le but recherché ? Mais par qui ? Nous éprouvons quelques difficultés à saisir ce qui nous arrive. Nous avons le sentiment de nous aventurer dans des sables mouvants où nous nous enlisons à chaque pas. Et si c'était cela notre réalité ? Une réalité devenue insaisissable, une réalité anguille qui nous glisse entre les mains. Nous n'avons plus qu'une représentation fausse de la réalité, une représentation écran, dans le sens propre du terme, faite de clichés. L'image faussée, incertaine et changeante, inconsistante et capricieuse de la réalité. L'image que le pouvoir veut bien nous en donner et à laquelle nous adhérons par soumission et paresse. Et je ne parle pas seulement de Tchernobyl ou de Fukushima, ni même de la Palestine ou de la Syrie, du Nigeria ou de l'Afghanistan. Je parle de notre réalité, de la réalité de la femme et de l'homme d'aujourd'hui sur la Terre. Je pense d'ailleurs que le trouble des esprits, dans lequel nous sommes tenus ou maintenus, fait partie de cette guerre de basse intensité dite encore « guerre psychologique » dans laquelle nous sommes plongés, que nous le voulions ou non. Nous sommes des cibles qui s'ignorent. À Oaxaca, nous vivons les conséquences de notre défaite de 2006, et une pensée étrangère et même opposée à l'esprit de la commune nous envahit et pénètre chaque recoin du territoire, poussant son avantage partout où existe encore une vie sociale digne de ce nom. Si nous lisons avec attention le communiqué envoyé aux gens de l'ISM, nous remarquerons que cartel se confond avec la notion de territoire. Le cartel est le territoire, l'espace, ou encore la plaza annexée et contrôlée par un groupe armé afin de s'y livrer à des trafics en tout genre, illégaux ou non. Le cartel du Golfe est à la fois le nom d'une organisation mafieuse et le territoire qu'elle contrôle ou qu'elle entend contrôler. Nous avons affaire à une société anonyme, se livrant à la production et à la commercialisation de marchandises en grande partie interdites sur un territoire ou espace public qu'elle aura annexé à son profit. Ainsi, Carlos Fazio a pu écrire que le territoire national est vu comme l'espace ou la plaza qui peut être occupé et pacifié, c'est-à-dire privatisé. Pour l'esprit de la commune, le territoire est le lieu où se développe une vie communautaire, selon ses usages et coutumes propres. Je dirais que c'est un espace public qui appartient en propre au public. L'État a cherché à s'emparer et à contrôler, c'est-à-dire à administrer cet espace public à travers ses propres institutions. Une sorte de dialogue, proche du rapport de force et d'un dialogue de sourds, s'est alors établi entre la société et l'État aboutissant à un pacte, la Constitution. Jusqu'alors, le public avait encore des droits et pouvait espérer se faire entendre par l'État. Nous voyons par exemple le peuple Chontal entreprendre des démarches sur le plan juridique, constitutionnel donc, pour interdire l'exploitation minière sur son territoire. La situation est en train de changer très rapidement. L'État national n'est plus qu'un instrument d'une volonté qui lui est supérieure. L'État a toujours été l'expression d'une volonté séparée, celle d'une classe sociale et, en ce qui nous concerne, celle d'une bourgeoisie nationale. Cette dimension nationale est en train de se diluer dans un marché international ou planétaire. L'esprit de corps existe toujours. La corporation des grands marchands, des entreprises transnationales ou multinationales, dictant sa loi, existe toujours. Mais les États nationaux ne sont plus désormais que les instruments de sa volonté. Fin du pacte social qui liait l'État à la société civile, fin du droit constitutionnel. Sous le prétexte de la guerre, guerre contre le terrorisme d'un côté, guerre contre les cartels de la drogue de l'autre, des lois dites d'exception mettent fin aux libertés constitutionnelles. Nous vivons sous le régime de l'exception et cette exception devient la règle. Les États-Unis sont devenus les centres névralgiques du capital international et de son impérialisme et la guerre fait rage, consistant à soumettre à une volonté unique, à une pensée unique, celle des compagnies marchandes, l'ensemble de l'humanité. C'est une guerre de conquête ou de reconquête des territoires. C'est une guerre d'occupation. C'est une nouvelle guerre coloniale qui n'est plus menée par des États nationaux au bénéfice d'une bourgeoisie nationale, mais par un État supranational lié à des intérêts supranationaux. Dans les guerres coloniales d'hier, comme dans celles d'aujourd'hui, l'ennemi est toute la population. À partir du moment où Calderón, sous la suggestion des États-Unis, a déclaré la guerre au cartel, l'armée mexicaine est devenue une armée d'occupation dans son propre pays, violant les lois et même celles de la guerre, précise Carlos Fazio, ayant recours d'une manière systématique à la torture, la disparition forcée des personnes, l'exécution sommaire, hors justice, des suspects. Les meurtres d'enfants, de femmes ou d'étudiants sont alors assimilés, selon la rhétorique bien connue, à des pertes collatérales. Nous connaissons la chanson. C'est la bataille d'Alger à l'échelle d'un pays, reposant sur une doctrine de contre-insurrection désormais classique, appelée la guerre moderne, issue de l'école française et assimilée à la perfection par le Pentagone et l'agence centrale ou CIA durant l'opération Phoenix au Vietnam. Dans cette affaire, le Mexique n'est pas une exception. Nous sentons bien que cette mainmise de l'impérialisme marchand par le biais des États-Unis d'Amérique s'étend sur la planète. La réorganisation des États avec ce profil policier-militaire nous conduira, écrit Carlos Fazio, à la construction de ce que Robinson Salazar appelle la citoyenneté de la peur et Naomi Klein la démocratie Big Brother. Nous assistons à des déplacements massifs de population et ce sont des personnes sans droit. Au milieu du droit ordinaire se multiplient ainsi des gens qui n'ont plus de droit, ou si peu. Les exilés, les immigrés, les indigènes, les clandestins, les pauvres. Les droits universels de l'homme et du citoyen apparaissent alors pour ce qu'ils ont toujours été. Les droits d'une corporation, celle des riches marchands. Ce fut toujours ainsi. Le droit, dans son expression séparée, est toujours le droit de la classe dominante, féodale, bureaucratique, théocratique. Le droit bourgeois, défendant la propriété privée et la personne sous son aspect privé, l'homme en tant qu'individu n'échappe pas à la règle. Par contre, le droit dans son expression non séparée est seulement une éthique de vie, un art de vivre en société, un ensemble d'usages qui ne sont pas toujours explicites. Ne nous faisons pas trop d'illusions. Les dés sont en train de changer de main et nous, qui avions des colonies, sommes en passe de devenir des pays colonisés par une pensée spéculative de haut vol, imposant implacablement ses volontés et ses nécessités, tirant les ficelles d'une dette dite publique qui nous lie fatalement comme de vulgaires peones, mais sur une toute autre échelle, à nos nouveaux maîtres. Actuellement, nous assistons au Mexique à une privatisation accélérée de l'espace communal. C'est un phénomène nouveau, du moins par l'ampleur qu'il prend. Privatisation des terres ejidales et des terres communales, facilitant la mainmise sur le territoire communal des entreprises nationales et internationales, comme la construction de l'aéroport international à Atenco. Atenco est seulement un exemple auquel j'ajouterai l'exploitation minière, les barrages hydroélectriques, les éoliennes, l'exploitation intensive des forêts, les golfs, les monocultures, etc. C'est à l'intérieur de ce mouvement général de privatisation de l'espace communal que s'inscrit la montée en puissance des cartels de la drogue. Il se présente comme la pointe avancée du capitalisme. Le capitalisme sauvage soumettant la population par la terreur et ne s'embarrassant pas du droit. Il existe une complicité de fait entre le capitalisme avancé des entreprises multinationales, qui ne s'embarrassent pas non plus du droit des gens, et le capitalisme primitif et plus risqué de l'illégalité. Des sociologues, en se référant à Marx, parlent à ce sujet d'accumulation primitive du capital. Surtout, cet enrichissement illicite est considérable, donne du poids et de la consistance au point de vue du marchand sur le monde, pénétrant et tenant sous sa coupe toute une frange de la population qui était exclue des bénéfices, entre parenthèses des bienfaits, de la civilisation marchande. Ce double aspect des cartels, à la fois figure du capitalisme primitif et celle de la délinquance, du marchand et du hors-la-loi, si elle correspond à la réalité, n'est pas non plus pour déplaire car elle entretient la confusion entre délinquance et dissidence. Déclarer la guerre et la délinquance, ce n'est pas nécessairement déclarer la guerre au capitalisme sauvage. C'est plus clairement déclarer la guerre à tous ceux qui troublent l'ordre public, à tous ceux qui ne se soumettent pas à l'ordre d'un monde. c'est faire la guerre à la dissidence. L'État peut bien déclarer la guerre à la délinquance ou déclarer la guerre au terrorisme, il sait qu'il aura ainsi l'appui d'une grande partie de l'opinion. Qui pourrait être pour les attentats, les enlèvements, les prises d'otages, les assassinats, les tortures? Il peut ainsi militariser le pays sans trop heurter le sentiment général et reconquérir par les armes et la terreur un espace public qui lui échappait. Mais, et c'est la nouveauté, pour en faire un espace privé, livré aux intérêts du capital transnational. Ce qui fait dire à un habitant du Ciudad Juárez qu'il subit désormais la violence de trois cartels, celui des flics, celui des militaires et celui des narcos. La guerre est essentiellement une activité qui n'est pas soumise à des règles, excepté celles qui permettent d'obtenir la victoire, excite Clausewitz. Cette guerre est d'autant plus désastreuse que l'ennemi est vague. Il n'est pas politiquement défini, au point où l'on peut se demander s'il existe vraiment, ou alors quiconque peut se révéler l'ennemi à abattre, tous ceux qui ne sont pas, du fait de leur soumission et de leur complicité avec le pouvoir, à l'abri et intouchables, et encore faut-il qu'ils choisissent le bon cheval, si je puis dire, ou le bon parti. Tous ceux qui, en fait, ne font pas partie de l'ordre mafieux et paramilitaire qui s'érige et s'installe au Mexique. Un petit air stalinien, non? Rien d'étonnant à cela. Nous nous dirigeons peu à peu vers un pouvoir totalitaire, celui des cartels et plus généralement des grandes compagnies marchandes. Comme le note Edgardo Buscaglia dans le livre de Paolo Monaco « Ayotzinapa Horas Eternas » Mexico 2015, il y a des dizaines de milliers de disparitions dans ce pays comme il y en avait en Argentine ou au Chili. Mais avec cette différence qu'il n'y a pas de junte militaire centralisée. Au Mexique, la décentralisation, l'atomisation du terrorisme d'État rend la situation encore plus terrifiante. Chaque municipalité est comme une petite junte militaire argentine. La propagande nous dit que le capitalisme est créateur de richesses, pour les capitalistes sans doute. En fait, il est surtout créateur de pauvreté, et il doit continuellement se défendre des pauvres qu'il jette sur les routes. En tant qu'individu, en tant que personne isolée, le pauvre ne pose pas de problème. Sa vie misérable n'inquiète pas outre mesure notre capitaliste. Il est seulement le résultat attendu et desséchable d'un système créateur de pauvreté. Il devient dangereux à partir du moment où il est encore attaché à une vie sociale, où il a encore la capacité de défendre, de construire ou de reconstruire une vie sociale, d'opposer à l'idéologie capitaliste, à la guerre de tous contre tous, l'esprit de la commune. Oaxaca, le 22 mai 2016, Georges Lapierre. Ce texte est donc en ligne sur le site lundimatin.org et il a lui-même été extrait d'un autre site qui s'appelle La Voix du Jaguar. Voilà. Alors, je suis arrivée à la fin de cette première émission, l'entretexte. Si vous voulez réécouter une partie ou réécouter certaines choses. En tout cas, on va mettre l'émission en podcast d'ici quelques heures et sur le site unperfectradio.ch. Et là, vous trouverez aussi, donc, comme je vous l'ai dit, les différents articles qui ont servi à un peu cet essai. Aussi, je vais aussi mettre ça sur l'événement Facebook. Et si vous avez des remarques ou des échanges ou des suggestions, je vous invite à écrire à notre adresse mail urgent@urgentparadise.ch et on se fera un plaisir aussi de vous lire et d'échanger à ce sujet. La prochaine émission, l'entretexte, aura donc lieu le 18 février. L'heure vous sera annoncé prochainement. Et donc peut-être que ça aura un lien avec le terrorisme dans le droit suisse. Et en même temps, peut-être pas, parce que un des buts aussi de cette émission, c'est d'être perméable au quotidien et aux rencontres. Du coup, peut-être que ça changera. Merci et à bientôt.